Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci beaucoup, Madame Lapalle, d'être venue à Paris en fait pour parler de votre deuxième roman, Le Magicien. C'est toujours très intéressant, je trouve, de voir les couvertures en fait, les différentes façons dont les éditeurs présentent les livres. Donc ça, c'est la version allemande et ça, c'est la version française qui est parue en janvier 2019, oui, cette année, chez Agulo. Nous avons aussi l'éditrice en fait dans le public, Agulo, qui est une petite maison basée à Bordeaux, spécialisée dans la littérature de l'Europe de l'Est. C'est intéressant parce que vous avez un financement en fait de l'Union européenne pour traduire justement les langues rares. Voilà. Évidemment, très important de mentionner, c'est que ce livre, il a eu le prix littéraire de l'Union européenne. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de traductions. Ça sert à ça. Magdalena, vous m'avez dit, il est traduit en 15 langues. C'est une 15 Sprachen übersetzt?
Ich glaube, mittlerweile in 18 oder in 17 Sprachen.
Ah, oui, même 17 ou 18. Donc, ça, c'est très bien. Christiane Dresden l'a dit, en fait, vous êtes polonaise, vous êtes née à Gdansk. Et vous êtes venue, en fait, vivre à Berlin-Ouest, à Berlin, avec votre famille en 1984. Donc, vous aviez 13 ans. Donc, vous avez, en fait, une vision à la fois sur les pays de l'Est, mais aussi sur l'autre côté. Donc, Berlin-Ouest, et on sent que c'est une ville qui vous travaille beaucoup. En fait, dans tous vos livres, Berlin joue un rôle important, et évidemment, quelqu'un qui s'intéresse à la politique, qui s'intéresse à l'histoire, s'intéresse à l'histoire de Berlin, parce que tout est... C'est omniprésent, en fait. Voilà. Ceux d'entre vous qui connaissent Berlin, évidemment, savent tout de suite de quoi je parle. C'est parce que Berlin, apparemment, une grosse Rolle spielt. Ah oui, il faut que je parle plus fort. Ouais. Also ich habe gesagt, dass Berlin einfach immer eine große Rolle spielt. Und das finde ich auch interessant, als Deutsche, die so im französischen Kontext lebt, dass sie diesen polnischen Blick haben. Also, was que je disais, c'est que moi, Allemande, travaillant dans le contexte franco-allemand, je trouve qu'il y a peu de voix, en fait, polonaises. On est aussi voisins, évidemment, mais on n'a pas la même histoire. Il n'y a pas un organisme comme l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui a aidé, en fait, les deux pays à se réconcilier. Diese ganze Versöhnungsarbeit, die Deutschland und Frankreich geleistet haben, hat mit Polen und Deutschland ja nie stattgefunden. Von daher ist es wichtig, diese Stimme zu haben. Wollen Sie was sagen?
Ich sag noch was dazu.
Okay, alles klar. Alors, de quoi parle ce livre? C'est vraiment un sujet que j'ai découvert, que je connaissais rien là-dessus. Ce n'est pas étonnant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. En fait, ce sont c'est la collaboration entre la Stasi, tout le monde sait ce que c'est, et les gardes frontières bulgares qui, dès les années 1970, ont monté une opération commune pour tuer les dissidents qui voulaient fuir le bloc soviétique de l'Est, en fait. Pas uniquement les Allemands, ça concernait aussi les opposants tchèques, polonais, et je pense hongrois aussi, mais ça concernait aussi beaucoup d'Allemands de l'Est, de la RDA. Généralement, en fait, les dissidents étaient tués par balles. On les a enterrés directement sur place. Ils n'ont pas été transférés, en fait, dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui encore, c'est une histoire dont on ne parle pas beaucoup. Et Magdalena Paris l'a découvert dans le Spiegel. Also, ich habe kurz zusammengefasst, worum es geht in ihrem Buch, genau. Und vielleicht können Sie sagen, wie Sie diesen Spiegelartikel entdeckt haben und wie daraus dieses Buch entstanden ist.
Erstmal schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön für die Einladung.
D'abord, bonsoir, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation.
Das war ein Zufall, dass ich mich jetzt für dieses Thema entschieden habe. Denn ursprünglich wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben. Ich wollte einen Liebesroman schreiben.
C'était un pur hasard en fait que je suis tombée sur ce sujet-là en fait à la Enfin, j'avais comme projet d'écrire une histoire d'amour.
Ich schreibe schon seit wirklich vielen Jahren intensiv. Nicht alles, was ich vorher, also vor 10 Jahren geschrieben habe, wurde veröffentlicht. Und trotzdem habe ich so ein Gefühl, als ob ich nie was anderes gemacht hätte, immer nur geschrieben hätte. Und wie gesagt, wenn ich mich entscheiden würde, wenn ich die Entscheidung treffen könnte, was ich machen möchte, würde ich bestimmt ein anderes Buch schreiben. Aber das habe ich ja schon gesagt. Wie ist es dazu gekommen, dass ich dass ich mich für dieses Thema entschieden habe? Katja, sag immer, wenn es zu viel ist. Wenn ich
ja. Ja. Alors moi, ça fait 10 ans en fait que j'écris. Tout n'a pas été publié, mais moi j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça en fait. Jamais fait rien d'autre. Et encore une fois, si c'était à moi de choisir vraiment mes sujets, je préférerais écrire sur un autre sujet. Mais ce sont des sujets en fait qui me choisissent. Voilà. Donc pourquoi ce sujet?
Also wenn es kein Liebesroman schon geworden ist, dachte ich mir, okay, ich schreibe jetzt einen Krimi-Roman. Ja, wo ich auch ein bisschen Spaß dran habe, wo ich auch ein bisschen etwas miterleben kann. Und dann habe ich zufälligerweise, ganz zufällig, wie das oft so ist, in der Zeitschrift Spiegel, wird ja jeder kennen, einen Artikel gelesen, das war glaube ich im Jahr 2010. Der Artikel hieß Der letzte Schuss.
Der letzte?
Der letzte Schuss.
Donc moi je me suis dit bon, je vais pas écrire une histoire d'amour, alors je vais écrire un polar parce que comme ça je peux aussi m'amuser et vivre les choses en fait en même temps que les personnages. Et c'était vraiment tout à fait par hasard que je suis tombée sur un article dans Le Spiegel. Je crois que c'était en 2010, intitulé Le dernier coup de feu.
Gleichzeitig habe ich wieder mal zufällig eine Zeitschrift gekauft, die ich sonst nie kaufe. Die wird von Studenten her geschrieben und produziert. Wie schön, ich habe jetzt den Namen vergessen. Gleich wird mir ein einfallen. Und die sind unabhängig, die sind frech und sie sind vielleicht so wie früher, vor vielen, vielen Jahren, die Taz war. Und da habe ich einen Artikel gelesen über vernichtete Akten. Über Akten, die in Deutschland in dem, damals hieß das Amt noch Gauk, Gauk.
Gaukbehörde.
Ja, Gaukbehörde. Mhm. Je nachdem, wer jetzt dann das Amt übernimmt. Stasi-Unterlagenbehörde. Mhm. Und ich musste nicht nur einmal lesen, ich musste zweimal lesen und dreimal lesen, ob es überhaupt möglich ist, dass man im Jahr 2010 20 Millionen Seiten Dokumente, also wichtige Akten, vernichtet. 2010 20 Millionen Seiten vernichtet. Und das hat mich sehr stutzig gemacht und so, und das waren praktisch diese zwei Auslöser, die dazu geführt haben, dass ich dann mich der Thematik gewidmet habe.
Mhm. Donc je suis tombée sur l'article du Spiegel et en même temps j'ai trouvé un autre article dans un magazine qui est publié par des étudiants et qui est dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name des Magazins eingefallen ist.
Jungle World.
Ah, Jungle World, genau. Ça, c'est un magazine alternatif,
absolut.
De gauche, voilà, qui ressemble justement, qui est assez insolent, qui ressemble un petit peu à ce que c'était la Taz, die Tageszeitung, c'est un journal comparable avec l'IB, enfin, gauche, très à gauche. Et en fait, cet article, il parlait des archives de la Stasi qui ont été détruites. En 2010, il y a plus de 20 millions de pages d'archives extrêmement importantes qui ont été détruites. Et ça m'a tout de suite alertée. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'en 2010, en fait, on détruit tout ça.
Jetzt vielleicht zu dem Artikel Der letzte Schuss. Warum überhaupt? Dieser Artikel beschrieb so Eltern, die ihre Kinder verloren haben in den 80er Jahren und also jetzt nicht nur in den 80er Jahren. Seit dem Moment, wo die Berliner Mauer gebaut worden ist, haben viele junge Menschen versucht, natürlich nicht über die Berliner Mauer zu fliehen, auch, aber sie haben auch nach anderen Wegen gesucht. Und einer der Wege war natürlich Bulgarien. Wenn man jung ist, denkt man, ja, Bulgarien-Urlaub, es wird schon einfach sein, dort vielleicht über die Grenze zu fliehen. Über die damals bulgarisch-türkische und über die damals bulgarisch-griechische Grenze. Und ich habe da in diesem Artikel gelesen, wie 89 der letzte Junge erschossen worden ist. Das war der Max Weber, ein paar Tage bevor die Berliner Mauer gefallen ist. Und dieser sinnlose Tod und dieses Leid der Eltern hat mich so erschüttert, vor allem Leid der Mutter, dass mich einfach dieser Gedanke nicht mehr losließ. Und warum war das so erschütternd? Weil diese Mutter nie die Leiche des Jungen zurückbekommen hat. Es wurde ja verschwiegen, wie der Junge umgekommen ist. Und vor allem in diesem Artikel wurde veröffentlicht, dass die Stasi, dass die bulgarischen Soldaten von Stasi pro ein Opfer über 2000 D-Mark bekommen haben, wenn sie die deutschen Flüchtlinge erschossen haben und sie nicht am Leben gelassen haben, weil sie wollten nicht sie lebend nochmal zurück in die DDR bringen, transportieren. Mm.
Donc cet article, le dernier coup de feu, il parlait donc des parents qui ont perdu leurs enfants depuis la construction du mur en fait, jusqu'à dans les années 80 en fait, jusqu'à la chute du mur. Donc des jeunes qui voulaient fuir la RDA et pas uniquement en fait en passant la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest, mais en fait il y en avait beaucoup qui sont allés en Bulgarie et qui ont essayé en fait de fuir en passant par la frontière entre la Bulgarie et la Grèce ou la Bulgarie et la Turquie. Et en fait pour beaucoup de jeunes ça semble être plus facile en fait, on va en vacances en Bulgarie et peut-être qu'il y a moyen en fait de s'évader. Et la dernière victime a été tuée par balle en 89. C'est un garçon qui s'appelait Max Weber. Et quand j'ai lu en fait tout ça, et quand j'ai aussi lu le témoignage de la mère qui était inconsolable, évidemment, parce que non seulement son fils a été assassiné, mais elle n'a jamais vu le corps, jamais le corps a été transféré en fait en Allemagne. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Tous ces morts qui sont morts pour rien. Et ce qui m'a particulièrement choquée, c'est que les soldats bulgares, ils recevaient une prime de 2000 euros pour chaque dissident allemand qu'ils tuaient. Et on leur demandait en fait à les tuer. Ouais, effectivement, une histoire très très lourde. Et je pense que, en fait, aucun de ces soldats bulgares, aucun bourreau, a été jugé pour l'instant. Il y a encore beaucoup de victimes, beaucoup de familles qui n'ont jamais retrouvé en fait le corps de leurs proches. C'est vraiment quelque chose qui reste toujours un peu enfui. Gesagt, das ist also immer noch nicht aufgeklärt worden. Ich glaube, kein einziger dieser bulgarischen Todesschützen wurde verurteilt. Noch viele Todesopfer sind nicht identifiziert. Die Leichen sind nicht in die jeweiligen Länder zurückgeführt worden.
Und sie haben keinen Status als Opfer in dem Sinne.
Et voilà. En fait, ce qui est important aussi, c'est qu'ils n'ont pas, à cause de tout ça, en fait, le statut de victime. Vraiment absolument incompréhensible, en plus pour un pays comme l'Allemagne qui normalement en fait est très fort pour faire ce genre de deuil. En fait, c'est erstaunlich, dass gerade sowas in Deutschland unter den Teppich gekehrt wird, weil eigentlich Deutschland ja sehr viel Arbeit geleistet hat, was diese Aufbereitung der Geschichte im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel betrifft.
Ja, und auch sehr viel, was die Stasi anbetrifft.
Die Stasi
aber,
auch,
genau. Ja. Aber eigentlich war das jetzt nicht das Thema meines Buches, um das aufzuklären oder das anzuprangern. Ich wollte eigentlich mehr diesen Vorgang beschreiben. Ich wollte eigentlich überhaupt erzählen, wenn Sie so möchten, ist es vielleicht ein Buch über die deutschen Flüchtlinge. Ja? Mhm. Natürlich habe ich das in dem Moment geschrieben, wo es noch das Thema der Flüchtlinge noch kein Thema in Deutschland oder in Europa so war, weil ich habe dieses Buch vor, ich habe dieses Buch vor 6 oder 7 Jahren geschrieben, auf Polnisch damals, und natürlich war das schon damals ein Problem für Italien, das war ein Problem für viele andere Länder, aber bestimmt nicht so präsent für Deutschland. Und es ist oft so, dass Schriftsteller irgendwie unbewusst Themen aufgreifen, die nach 7 Jahren zum Thema werden. Auch wenn es jetzt nicht um die Flüchtlinge geht, ja, aber ist ein Flüchtling nicht immer ein Flüchtling? Mhm. Ja, was sucht ein Flüchtling? Ja, immer ein besseres Leben. Und das haben die deutschen Flüchtlinge aus der damaligen DDR gesucht. Freiheit, weg von der Diktatur und nochmal Freiheit.
Je voulais pas en fait critiquer les amants pour le fait de ne pas avoir fait un travail sur tout ça, d'avoir élucidé en fait cette histoire-là. Moi, je voulais plutôt raconter l'histoire des réfugiés allemands. Et lorsque j'ai écrit ce livre il y a 7 ans, en fait, c'était pas encore un grand sujet comme ça l'est maintenant. Évidemment, il y avait la crise migratoire, mais ça concernait à l'époque l'Italie, d'autres pays en Europe, mais pas encore l'Allemagne. Mais comme souvent, en fait, les écrivains pressentent les sujets qui après deviennent très très importants. Et voilà, en fait, j'ai écrit un livre sur les réfugiés allemands. Évidemment, aujourd'hui, il s'agit d'autres réfugiés. Mais finalement, tous les réfugiés sont pareils, parce que qu'est-ce qui les anime? Ils cherchent une vie meilleure, et ces réfugiés allemands qui voulaient fuir la RDA, ils étaient en quête de liberté. Voilà le lien avec les réfugiés d'aujourd'hui. Die Frage, die ich mir immer stelle, ich denke, Sie haben viele Recherchen gemacht, und so weiter, wie man dann irgendwann sagt, stopp jetzt mit den Recherchen, ich finde eine literarische Form dafür. Mhm. Wie kommt das zustande? Warum ist daraus ein Krimi geworden und zum Beispiel kein Sachbuch? Hätte auch sein können. Vielleicht können Sie aber erstmal erzählen über die Recherchen, die Sie gemacht haben. La question, c'est que Magdalena Paris, elle est aussi journaliste. Étant moi-même journaliste, je me pose toujours la question, en fait, évidemment, on fait beaucoup, beaucoup de recherches. Maintenant, elle va nous dire, en fait, comment elle a mené l'enquête, comment elle a trouvé les informations sur cette histoire. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on arrête et se dit, voilà, maintenant, j'ai assez de matière, maintenant, je dois trouver une forme littéraire. Pourquoi est-ce qu'elle en a fait un polar? Parce que c'est un polar politique, historique. Elle aurait très bien pu en faire un essai.
Ich glaube, die Recherchen waren, das wird Sie vielleicht überraschen, aber die Recherchen waren beendet in dem Moment, als ich eine Seite im Internet von Dr., inzwischen schon Professor Apelus, gefunden habe, der unheimlich viel in dieser Thematik recherchiert hat. Das war eine Traumseite, ich habe sie aufgemacht und dort war alles. Die Zahl der Flüchtlinge damals aus Tschechien, aus Polen, aus Deutschland, alles, was in den 60er, 70er, 80er Jahren geflüchtet ist in Osteuropa, in die Freiheit. Dann habe ich entdeckt, wie gesagt, diesen Artikel im Spiegel, der letzte Schuss, und natürlich auch diese wunderbare Recherche von den verschiedenen unabhängigen Zeitschriften über die Vernichtung der Akte. Mhm. So, damit war Schluss, und ich bin, im Gegensatz zu dir, Katja, ich bin keine Journalistin. Ich bin Journalistin, aber ich wollte es nie werden. Irgendwie, ich wollte immer Bücher schreiben und habe auch immer Bücher geschrieben, aber da ich ziemlich früh mit Gazeta Wyborcza ist, Entschuldigung für diesen Vergleich, aber wie Le Monde wahrscheinlich in Frankreich, ich habe die Chefredakteure dort getroffen, und hatte immer Ideen für irgendetwas, ja? Und eine der Ideen war immer, dass ich Interviews mit Politikern durchführen wollte, mit Politikern, Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Erika Steinbach was sagt. Und ich dachte mir, ich werde mit ihr reden für die Polen. Und ja, also ich denke, ich lasse dich jetzt ein bisschen übersetzen, weil das sonst zu viel ist.
Danke. ça peut vous surprendre, mais en fait, mes recherches ont pris fin très, très brusquement, en fait. Donc, je vous ai dit, je suis tombée sur les différents articles, etc. Et en fait, j'ai trouvé sur Internet l'article d'un professeur qui s'appelle Apelus et qui a énormément écrit, en fait, sur le sujet. Et sur cette page, j'avais tout d'un coup toutes les informations. Le nombre exact des réfugiés venant d'Allemagne, de Pologne, etc. En fait, tout ce mouvement, en fait, des réfugiés de l'Europe centrale qui voulaient s'enfuir, qui étaient en recherche de liberté. Et contrairement à toi, Katia, me disait Magdalena, je suis journaliste, mais je voulais jamais le devenir. Moi, je voulais toujours écrire des livres. J'ai travaillé pour Gazeta
Wyborcza,
qui est un peu le pendant de Le Monde. J'ai toujours proposé beaucoup d'interviews, en fait. Moi, je voulais toujours faire des interviews avec des hommes politiques. Et là, en fait, Magdalena Paris, elle va nous parler de Erika Steinbach, dont elle voulait faire, avec qui elle voulait faire une interview.
Und ich hatte immer so Ideen und sie meinten, ja gut, dann geh doch zu Erika Steinbach, mal gucken, ob sie dir ein Interview gibt. Und dazu muss ich vielleicht sagen, für die, die das jetzt nicht wissen, das deutsch-polnische Verhältnis ist nicht mal zu vergleichen zu dem französisch-deutschen Verhältnis. Ja? Das ist ein schwieriges Verhältnis.
Et donc, en fait, les journalistes m'ont dit, mais allez-y, en fait, allez rencontrer Erika Steinbach et vous allez voir. Mais il faut préciser quand même, pour tous ceux qui ne savent pas, que les relations entre l'Allemagne et la Pologne ne sont absolument pas les mêmes qu'entre la France et l'Allemagne. Ça reste quelque chose de très compliqué, de très difficile.
Ich weiß jetzt nicht, wie es den Franzosen geht, aber vielleicht können Sie mir endlich mal die Frage beantworten, weil ich das immer so fragen möchte, jetzt nicht nur die Journalisten, sondern auch, wenn ein Deutscher nach Polen kommt und ganz laut, ich bin in Gdańsk geboren, in Danzig, und da ganz laut sagt, ja, hier habe ich gewohnt, Achtung und so weiter, ja, also so laut, dann zucken ganz viele Polen immer noch. Sie zucken richtig. Also das ist jetzt, ich meine, ich will jetzt nicht alte Ressentiments hier, weil ich meine, ich lebe ja in Deutschland seit 30 Jahren und ich liebe die deutsche Sprache. Und ich kann kaum erwarten, wann ich endlich mal auf Deutsch schreiben kann, ja. Aber meine Oma zuckt zusammen. Und die Hälfte unserer Familie oder von meiner Oma ist umgekommen während des Krieges. Und sie musste nicht mal eine jüdische Familie sein, ja. Darum geht's nicht. Es sind auch viele Polen umgekommen. Und deswegen ist es immer noch so ein schwieriges Verhältnis. Und das muss ich nur kurz dazu erwähnen, weil es um Erika Steinbach geht, ja. Mhm. Die ja sehr wohl die alten Terrains einfordert und findet, dass zum Beispiel Danzig, Stettin und viele andere Städte zurück nach, also wieder mal deutsch sein sollten. Also sehr vereinfacht jetzt gesagt, ja. Um mich jetzt da jetzt nicht zu sehr zu vertiefen.
Ich glaube, wir führen auch ein bisschen weg davon, ja. Juste pour vous expliquer encore une fois le contexte. Lorsqu'un Allemand, il va en Pologne, il va parler un petit peu avec une voix forte et il va dire Achtung, un peu les clichés qu'on a peut-être sur les nazis. Les gens, ils ont une réaction comme ça, en fait. Ils ont peur. Moi, ça fait 30 ans que j'habite en Allemagne. J'adore la langue allemande. Je rêve aussi d'écrire une fois un roman en allemand. Mais il faut vraiment garder en tête que, voilà, les gens, ils ont toujours peur. Cette histoire-là, elle reste toujours là. Ma grand-mère, par exemple, elle a peur. La moitié de la famille de ma grand-mère a été assassinée, tout simplement pendant la Seconde Guerre mondiale, sans être juif. En fait, il y a beaucoup de Polonais qui sont morts. Voilà, juste ça pour parler, en fait, de Erika Steinbach, avec qui je voulais faire une interview pour ce journal.
Mhm. Warum ich Ihnen das alles erzähle, jetzt nicht, damit wir jetzt von dem Thema und von dem Buch abweichen. Wichtig ist es, dass sie wissen, dass diese Bücher in Polen für die Polen was ganz Besonderes sind. Also schwer zu sagen.
Von welche Bücher?
Ja, diese Bücher. Schwer zu erzählen über seine eigenen Bücher, sowas. Aber damit wollte ich den Polen einfach ein bisschen ein anderes Deutschland zeigen. Ja, ich wollte ihnen zeigen, dass sehr wohl Deutschland auch eine Stasi-Geschichte hinter sich hat. Dass die Deutschen sehr wohl auch ihre Freiheitskämpfer, Probleme und was auch immer hatten. Und ich denke, mit einem Sachbuch wäre ich niemals so angehört und wahrgenommen, als wenn ich jetzt solche Bücher schreibe. Und das ist mir klar geworden bei dem Interview von Erika Steinbach. Ich habe natürlich mein Interview bekommen. Also wenn ich was will, bekomme ich es schon. Und es war auf den ersten Seiten von Gazeta Wyborcza. Und ich habe ganz viele Interviews für Gazeta Wyborcza gemacht mit schwierigen deutschen Politikern. Aber was nutzt mir, dass sie da 3 Tage auf der ersten Seite sind oder jetzt auf den Internetseiten, dass sich das hier da durchliest, wenn man das sofort am nächsten Tag vergisst? Bei diesen Büchern ist es ein bisschen anders. Wenn man eine Trilogie schreibt, weil das ist ja der erste Teil von der Trilogie. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte eine Trilogie schreiben. Und in jedem Teil behandle ich ein anderes deutsches Thema, schwieriges, deutsch-polnisches oder nur ein deutsches Thema, was von 2 Polen, von einem polnischen Journalisten und von einem polnischen Kommissar, als Untersuchung durchgeführt wird, die in Deutschland leben und in Deutschland angekommen sind, aufgewachsen sind. Oh, ich hoffe, Katja, das wird jetzt.
Wir kriegen das schon zusammen hin. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pour répondre à la question pourquoi j'ai choisi en fait d'écrire un polar et non pas un essai. Je peux vous dire que ces livres-là sont très importants pour les Polonais. Parce que j'avais envie en fait de leur raconter une autre histoire allemande. J'avais envie de leur donner une autre image de l'Allemagne. Je voulais leur expliquer que eux ils avaient cette histoire de la Stasi et que eux aussi, chez eux aussi, il y avait des gens qui devaient se battre pour la liberté. Et avec un essai, j'aurais jamais eu la même attention. C'est comme ça. Pour revenir à Erika Steinbach, évidemment, j'ai fait mon interview. Lorsque je voudrais quelque chose, j'arrive à le faire. Et c'était une interview qui a fait la une du journal, qui était partout sur Internet. Mais à quoi bon, en fait? Parce que les gens, ils oublient. Et en écrivant, en fait, des livres, en écrivant des polars, voilà, je peux joindre un autre public. Et en plus, ça, c'est le premier volet d'une trilogie. Donc, ils vont suivre encore 2 autres livres sur des sujets germano-polonais difficiles. Et à chaque fois, en fait, le fil rouge, il y a un commissaire polonais et une journaliste polonaise qui vont mener l'enquête. Mais en fait, ce sont 2 Polonais qui vivent en Allemagne depuis très longtemps et qui sont arrivés en Allemagne, vraiment, entièrement. Das ist auch Ihre Geschichte, Magdalena Paris, oder? Sie, glaube ich, sind mittlerweile angekommen in Deutschland, oder?
Na, nach 30 Jahren, das hoffe ich.
ja.
Ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt 47 Jahre alt, lebe seit 34 Jahren in Deutschland. Ich hoffe, ich bin angekommen. Das wäre schon tragisch, wenn ich noch nicht angekommen wäre. Mhm. Ich denke, das zeigen auch die Bücher, dass mich eigentlich mehr die deutschen Themen interessieren und dass ich viel mehr in den deutschen Themen vertieft bin als in den polnischen. Ich weiß natürlich, was in Polen politisch geschieht, aber ich lebe in Deutschland, ich lebe in Berlin, in einer heftigen, dynamischen Stadt, wo ich mit Magia unterwegs war in Deutschland zu verschiedenen Lesungen, ganz oft das Gefühl hatte, dass ich im Westen, also in Deutschland, also jetzt irgendwo an der holländischen Grenze oder jetzt auch in Köln, den Deutschen dort überhaupt das deutsch-deutsche Verhältnis erkläre. Das, was überhaupt Berlin-West und Berlin-Ost war. Warum? Weil ich ja 1984 nach Deutschland kam. Und ich lebte in West-Berlin, aber ich kannte sehr gut auch Ost-Berlin. Ich war zwar ein junges Mädchen, aber ich nutzte jede Gelegenheit, um in den Osten zu gehen und dort zu recherchieren. Ich kenne die Stadt von damals, von heute und dazwischen. Und das denkt, und die Frage, die du mir gestellt hast wegen Recherchen, ich glaube, ich musste nicht so viel recherchieren. Ich habe so viel selbst erlebt an den Grenzen, deutsch-deutschen Grenzen, an den polnisch-deutschen Grenzen. Ich habe meine Erlebnisse als junges Mädchen mit Zöllnern gehabt. Die wünsche ich keinem. Ich habe in einem Regieland auch gelebt, in Polen. Hm. Ich denke, und ich habe relativ spät angefangen, wirklich für Verlage zu schreiben, jetzt ernsthaft zu schreiben. Ich war 35 und ich habe immer das Gefühl, dass ich, bis ich 35 Jahre alt war, gewartet habe, dass ich reif genug bin, das alles aus mir rauszulassen, dass ich endlich mal das beschreiben kann. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin noch lange nicht fertig.
Oui, moi-même, en fait, je suis absolument chez moi maintenant en Allemagne. J'ai 47 ans, ça fait 34 ans que je vis en Allemagne. Et heureusement, oui, l'Allemagne est devenue mon pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression de mieux comprendre maintenant les sujets allemands. Évidemment, je suis l'actualité en Pologne. Je sais très bien ce qui se passe. Mais ce que j'ai remarqué lorsque j'ai fait la promotion en fait de mon livre en Allemagne, j'étais en Cologne, j'étais un peu partout. J'avais l'impression de devoir expliquer aux Allemands leur propre histoire, la relation entre les deux Allemagnes. Et pourquoi, en fait, j'ai l'impression que je peux bien en parler? Parce que je connais les deux côtés. J'ai certes habité avec mes parents à Berlin-Ouest, mais j'ai saisi chaque occasion, en fait, pour aller aussi dans l'autre partie de l'Allemagne. Et pour revenir à votre question sur comment est-ce que j'ai fait les recherches pour ce livre, finalement, je n'avais pas vraiment besoin de faire beaucoup de recherches parce que l'expérience de la frontière, que ce soit entre les deux Allemagnes ou entre la Pologne et l'Allemagne, je les ai faites moi-même. J'ai fait des expériences, par exemple, avec des douaniers polonais que je ne souhaite à personne. En plus, j'ai vécu dans un régime communiste en Pologne. Donc, j'ai l'impression que j'ai dû attendre 35 ans lorsque j'ai publié mon premier livre, pour parler de tout ça, pour être enfin mûre de tout lâcher et de pouvoir en fait tout dire. Et j'ai d'ailleurs toujours pas l'impression d'avoir fini. Donc pour parler du livre, de la construction du livre, donc il y a des personnages qui sont très clairement construits à partir des personnages réels. Gesagt, wenn wir jetzt über die Konstruktion des Buches sprechen, da gibt es Figuren, die ganz klar angelehnt sind an historischen Figuren. Die Seidels zum Beispiel.
Mm-mm.
Nee?
Mm-mm.
Alors moi, ok, j'ai faux, mais je vais quand même traduire mon erreur.
Ich habe, weil das ist wichtig, ich habe diese Mutter in Erinnerung,
ja.
Aber ich habe keinen Max Weber beschrieben, nicht diesen Jungen.
Mhm.
Ich habe diese Emotionen übernommen, aber ich kenne keine Seidel oder Seiden. Ich musste mir ihn ausdenken. Ja, ich habe ihm französische Wurzel gegeben, ohne zu wissen, dass ich jemals ins Französisch übersetzt werde. Ich habe mir das einfach erdacht. Deswegen, als ich...
Je vais juste expliquer, en fait. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Seiden, ou Seidel, et en fait, c'est le père de deux garçons qui fuient, qui sont assassinés, en fait, à la frontière bulgare. Et moi, je pensais que Seidel et sa femme étaient inspirés, en fait, d'un couple qui a effectivement beaucoup œuvré pour élucider cette histoire. Et donc là, Magdalena me dit non. Je me suis inspirée, en fait, du côté émotionnel. Je me suis imaginé, en fait, cette souffrance. Mais, par exemple, j'ai donné des racines, j'ai imaginé des racines françaises à ce Seidel, donc un des personnages de l'histoire, sans savoir qu'un jour, mon livre, il va être traduit en français.
Es gibt auch eine Figur in diesem Buch, er heißt Schlangenberger, will Kanzler werden. Auch da habe ich mir diesen Mann von vorne bis hinten ausgedacht, obwohl bei den Lesungen in Deutschland mir immer wieder eingeredet worden ist, es gibt so einen Mann und der kommt aus Brandenburg und er ist fast Bürgermeister geworden. Okay.
Il y a un autre personnage qui s'appelle Schlangenberger et qui veut devenir chancelier et que j'ai inventé. Mais pendant les lectures en Allemagne, en fait, on a toujours voulu me faire croire que cet homme existait réellement, qu'il était un homme politique de Brandenbourg et qu'il a failli devenir maire, en fait, en Brandenbourg.
Es gibt auch ein bestimmtes Haus in diesem Buch, was sehr ausführlich beschrieben wird. Es ist auch meine Verbeugung für Berlin, glaube ich, mittlerweile, ja, für diese Stadt. Es ist auch ein Buch über Berlin, hoffentlich. Und die Tante von meinem Mann, er ist Deutscher, hat mich in Neukölln, das ist eine Bezirksstadt von in Berlin, zu einem Haus geführt, wo sie mir erzählt hat, das ist dieses Haus, was du da beschrieben hast. Ich habe dieses Haus nicht beschrieben, aber sie ist sicher, das ist dieses Haus. Und bei Spaziergängen, literarischen Spaziergängen, die in Berlin stattfinden, für polnische oder für deutsche Leser, werde ich manchmal gebeten, da mitzumachen, weil sie natürlich diese verschiedenen Stationen aus dem Magier oder aus dem Tunnel, aus meinem anderen Buch über Berlin, durchlaufen. Und ich stehe da und bin manchmal mit dabei und wundere mich, was die Guides, also was die Stadtführer so erzählen, wo alles so passiert ist, weil ich wusste es nicht, aber sie wissen es.
Il y a en fait une maison qui joue un rôle important dans ce roman. C'est marrant parce que en fait la tante de mon mari, qui est allemande, elle m'a dit, viens, on va à Neukölln, c'est un quartier de Berlin. Je vais te montrer cette maison-là. Ça, c'est la maison que tu as décrite. Et je ne connaissais pas cette maison. Et ça m'arrive souvent, en fait, il y a des balades littéraires pour des Polonais, pour des Allemands, où, en fait, on va à tous les endroits, aux endroits, oui, voilà, que je décris, en fait, que j'étais censée avoir décrit, en fait, dans ce livre. Et donc, j'entends tout ce que les guides racontent, en fait. Ils savent beaucoup mieux que moi, en fait, de quel lieu il s'agit. Ich sage vorher, dass es trotzdem immer über diese beiden Protagonisten, mm-hmm. Schlangenberger auf der einen Seite, Seiden auf der anderen Seite.
Okay.
Ja? Je vous propose qu'on commence avec la lecture, en fait, pour situer les deux protagonistes. Parce qu'il y a donc d'un côté Seiden, qui est un juif de Leipzig, donc qui a des origines françaises, dont les fils ont été assassinés. Il y a Paris, d'ailleurs, qui joue un rôle, je le mentionne parce qu'on est à Paris, parce que Seiden, en fait, il s'est rendu à Paris et il montre les photos de cette ville magnifique à ses fils, et c'est suite à ça qu'ils décident qu'ils doivent quitter, en fait, la RDA. Donc voilà, ils sont assassinés, et donc il va mener sa propre enquête avec sa femme. Il va en Bulgarie, et il est menacé, en fait, il a failli abandonner complètement son enquête, et il crée aussi des archives, ses propres archives, en fait, pour voilà, avoir toutes sortes d'informations, non seulement sur l'assassinat de ses propres fils, mais sur les autres victimes liées à cette histoire. Et donc, son adversaire, c'est le monsieur Schlangenberger, dont parlait Magdalena Paris, qui est vraiment le méchant du livre, qui est un homme politique avec un passé fort douteux. C'est l'archétype du Wenderhals, hein, quelqu'un qui est un opportuniste, en fait, qui va bien s'arranger avec n'importe quel système politique, et donc qui est lié à cette histoire, qui... voilà, en fait, qui a travaillé avec les services secrets bulgares. Donc, je vous propose qu'on commence peut-être la lecture en français et qu'on va découvrir ce fameux monsieur Schlangenberger.
C'est ça, 203, hein?
Ja, ich glaube, ja.
Le chemin vers la réussite était pourtant difficile, semé d'embûches, et il exigeait énormément de patience. Or, la patience n'était pas le point fort de Christiane. Il n'aimait pas évoquer sa période crépusculaire. Après la chute du mur, il avait été obligé de disparaître pour un temps de la scène, de rester dans l'ombre et de se consacrer principalement aux affaires. Profitant du chaos ambiant provoqué par l'effondrement du communisme, et grâce à ses connexions dans l'ancien système qu'il connaissait à la perfection, il développa un fructueux business avec Ernesto, son cousin par alliance et ami de longue date. Il créa ainsi Securitas City, une entreprise de surveillance, avec d'abord des filiales dans tout le pays, puis au-delà des frontières, en Pologne, en République tchèque et même en Suisse. Tout cela n'était qu'une activité commerciale et Christiane s'en lassa rapidement. Il se sentait profondément déçu. Le grand Kröger disait pourtant « Il faut parfois attendre patiemment de longues années avant de renaître, tel un phénix de ses cendres. » Mais rien, dans cette époque de marasme, n'apportait de consolation à Schlangenberg. Le temps, cependant, œuvrait en sa faveur. Personne, pas même lui, ne pouvait se douter que les changements surviendraient de manière aussi rapide et radicale dans le pays. Une fois de plus, il eut la confirmation que la mémoire humaine était sélective. Il observait avec étonnement le succès de ses anciens collègues dans l'Allemagne réunifiée, incapable de s'expliquer le nombre important d'électeurs qui, faisant fi de leur passé communiste, votaient pour eux. Ainsi, les anciens indicateurs et autres apparatchiks se retrouvaient-ils nombreux à présent dans la fonction publique et les organes administratifs des territoires est de la Nouvelle-Allemagne. Dans l'état de Brandenburg, une région chère à son cœur, sur les 26 députés de gauche au Landtag, 1 sur 4 avaient jadis travaillé pour la Stasi. Leur nouvel électorat, tout comme l'ancien d'ailleurs, celui de la RDA, commençait à ressentir personnellement les effets du capitalisme. Au début, ils évoquaient le bon vieux temps à voix basse, puis le clamaient de plus en plus fort et avec nostalgie. Gratuité des soins médicaux, crèches ouvertes 24 heures sur 24, bons d'achat, facilité de crédit, vacances en Bulgarie. La liste des bienfaits du socialisme était longue, de plus en plus longue, et cela se répercutait sur le vote. « C'est normal, » disait alors Ernesto, le cousin de Christiane, en haussant les épaules. « Pour qui voulez-vous qu'il vote? Pour les Bassis ?» Christiane ne pouvait que lui donner raison. Les Ossis s'entendaient bien qu'entre eux, tandis que les Bassis regardaient de haut leurs frères de l'Est. Il est vrai qu'une partie des Ossis était allée s'installer en Allemagne de l'Ouest, mais ils en étaient vite revenus. Un paysan, ça finit toujours par retourner dans sa cambrousse, lançait Ernesto en riant. Ernesto était originaire du Chili. En 1973, il était arrivé en Allemagne avec son père et sa cousine, et n'en était jamais retourné dans son pays natal. À présent, le Chili ne représentait pour lui plus qu'une terre lointaine. Ernesto avait 10 ans à l'époque, son père s'était suicidé, et le garçon s'était retrouvé seul avec sa cousine Laetitia. Une bien triste histoire, enfouie sous une avalanche d'événements successifs. La plupart de leurs anciens camarades, dont les noms, à leur si grande surprise, figuraient sur les listes électorales, avaient fait leurs études dans une école d'élite à Potsdam, l'Académie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, l'Académie allemande de sciences politiques et juridiques de la RDA. L'Académie formait les futurs ministres, juges, diplomates ou généraux, certains moins doués que d'autres, mais tous d'une fidélité absolue au système, des apparatchiks dont la RDA avait grandement besoin en ces temps difficiles. Considéré comme l'un des meilleurs étudiants de l'histoire de l'école, Christiane était sorti major de sa promotion. Le directeur de l'établissement, Herbert Kröger, l'avait immédiatement repéré et avait perçu en lui une âme sœur. Il avait pris sous son aile son brillant élève et encouragé ses aspirations, comme celle de poursuivre ses études à Moscou et de se lancer dans une carrière jugée très difficile. En vérité, le directeur aurait préféré que Christiane devienne ministre, mais ce dernier lui avait expliqué qu'il devait d'abord acquérir de l'expérience, faire ses preuves. Kröger ne pouvait qu'approuver. Lui-même avait dû se démener longtemps avant d'obtenir son poste dans l'enseignement supérieur. Né en 1913 à Dortmund, Herbert Kröger était un homme durement éprouvé par le destin. Membre du parti nazi, la NSDAP, et soldat SS au grade d'Oberscharführer, il était encombré d'un lourd passé. Néanmoins, poussé par ses ambitions, assoiffé d'expériences nouvelles, il s'était épris de l'idéologie communiste après la guerre, alors qu'il se trouvait en captivité chez les soviétiques, et avait tissé des liens avec Wilhelm Seisser, celui-là même qui allait devenir le premier chef de la Stasi en 1950. Ces nombreuses relations avaient permis à l'Oberscharführer SS Kröger de développer ses activités professionnelles juteuses et de mener une vie heureuse dans une Allemagne de l'Est antifasciste et libérée de l'idéologie de la NSDAP. Après avoir abandonné sa carrière universitaire, il avait occupé des fonctions importantes au sein du gouvernement de cette nouvelle Allemagne, représentant le pays sur le forum international. Il avait notamment dirigé durant 30 ans le Conseil des droits de l'homme. Christian n'avait jamais oublié l'enseignement dispensé par le directeur de l'école. S'il avait connu son passé trouble, Kröger aurait bénéficié à ses yeux d'un prestige plus grand encore. Quoi qu'il en soit, c'est bien Kröger qui s'évertuait à lui répéter « Les grands hommes finissent toujours dans un ministère ». Le premier discours politique de Christian passa à la postérité. Il avait choisi la meilleure stratégie possible, devançant son époque. Le fait est qu'il misait toujours sur l'avenir. Sa tactique initiale, soigneusement réfléchie, était d'une simplicité confondante et, comme il l'avait prévu, d'une efficacité redoutable. En un mot, Christian Schlangenberger s'était surpassé. « Génial !» s'exclama Ernesto, émerveillé. « Incroyable, patron, tout simplement incroyable !» ajoutèrent triomphants Irma et Frank Terbach, son premier staff électoral. Les coups de poing sur le pupitre et la voix douceâtre et paternaliste de ce sexagénaire, encore bel homme et à l'allure sportive, avaient pour objectif de rappeler aux femmes oubliées de l'ancienne RDA qui elles étaient, d'où elles venaient et quel pourrait être désormais leur avenir. Et lui, Christian Schlangenberger, allait les aider. Ce fut un moment historique pour son nouveau parti, ou celui qui l'avait retrouvé plus précisément. Composé à 40% de femmes, dorénavant, celle-ci allait constituer son nouvel électorat.
Hat ein Kommentar zu diesem.
Ich denke, also ich spreche leider kein Französisch. Leider. Aber ich hörte ganz viel Kommunismus, genial und so weiter. Also ich denke, das ist dieser Ausschnitt. Mhm. Und ich habe auch noch den schönen Namen Kröger, Herbert Kröger. Mhm. Herbert Kröger gab es tatsächlich. Mhm. Auf diesen Namen bin ich ganz zusätzlich gestoßen und dachte, warum nicht für meinen Schlangenberger, warum soll er jetzt nicht sein Mentor sein? Ja? Mhm. So ist es manchmal, dass, das, dass die Namen ganz zufällig zu einem kommen. Mhm. Das war bei diesem Buch und bei meinem Debüt, musste ich mich natürlich ab und zu doch in irgendwelche Sachen reinlesen, in irgendwelche Bücher, damit ich ja wirklich die Daten nicht durcheinander bringe. Denn ich habe ja nicht nur über Stasi geschrieben, sondern in fast jedem meinem Buch kommt auch der Zweite Weltkrieg vor. Immer als Schatten, aber der ist immer voran. Und ich bin in Deutschland groß geworden. Ich habe in Deutschland die Schule besucht, ich habe in Deutschland studiert. Aber was ich da immer wieder gefunden habe, das hat mich wirklich erschüttert. Und ich meine, ich bin ja journalistisch tätig gewesen und das sind ja keine fremden Themen für mich. Aber wissen Sie, dass Herbert Kröger in der DDR, die immer als die sich gesehen haben, die haben keine Nazis, ne? Sie sind die besseren Deutschen, dass sie ein Mann, der so viel Verbrechen auf seinem Konto hatte, ja, dass er Menschenrechtler, Vertreter für die DDR war. Das war sogar für mich damals ein bisschen viel, ja. Und immer wieder kamen dann solche Namen und sowas. Aber gut, jetzt haben wir in Polen auch einen Menschenrechtler, der ein ehemaliger Kommunist ist. Also, was soll ich dazu sagen? Und zwar wirklich ein Verbrecher. In einer rechtspopulistischen Partei. Das ist halt so, wahrscheinlich.
Dans l'extrait que vous venez d'écouter, il est donc question de ce Herbert Kröger. Et c'est quelqu'un qui a véritablement existé. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire le tuteur, en fait, de Schlangenberger. Évidemment, pour écrire ce livre-là, j'ai dû lire beaucoup d'articles, des sources, etc. Pour ne pas confondre les dates, je parle quand même de la Stasi. Et dans tous mes livres aussi, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle. La Seconde Guerre mondiale est comme une ombre, en fait. Elle est toujours là. Moi, j'ai grandi en Allemagne. J'ai fait ma scolarité en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne. J'ai travaillé comme journaliste, donc évidemment, tous ces sujets-là me sont familiers. Mais lorsque j'ai découvert l'histoire d'un Herbert Kröger qui, avec un tel passé nazi, on vient de l'entendre, pouvait devenir un représentant des droits de l'homme en RDA, là, c'était quand même un peu fort de café pour moi. Et je peux vous dire qu'il y en a plein de personnages comme ça. La preuve, on en a un en ce moment en Pologne, en fait, qui est un criminel qui a vécu dans un régime communiste et qui aujourd'hui est un défenseur de, un soi-disant défenseur des droits de l'homme. Donc, je propose qu'on lise un autre extrait, en fait, sur Seidel. Je vous ai déjà un peu parlé de ce personnage, mais voilà, vous allez le découvrir mieux encore.
À la fin de la liste se trouvaient quelques directeurs et employés de musée, dont un fondateur d'archives privées, un certain Burkhard Seidel. En ce qui concernait ce dernier, les suppositions de Schlangenberger avaient été rapidement confirmées. Seidel s'appelait en vérité Seiden, un juif donc de Leipzig. À cause du couple Seidel, Christiane avait eu autrefois de sérieux ennuis. Leur fils, des jumeaux, avait décidé de quitter le pays en passant par la Grèce, de fuir. Ils avaient péri sur place. Les Aedl avaient été informés de leur tentative. Christiane, pourtant, ne cessait de le répéter. « Moins on en sait, mieux on dort. » Pris d'un élan de sincérité, quelqu'un, dans les hautes sphères, n'avait pas su tenir sa langue. Dieu sait comment. Grâce à l'intervention d'un idiot quelconque au parti ou ailleurs, Christiane ne l'avait jamais vu, monsieur et madame Seidel avaient réussi à se rendre en Bulgarie. Ils avaient pu voir les corps avant qu'ils ne soient incinérés et les cendres avaient été envoyées par avion à Leipzig via Berlin. D'après le procès-verbal du 14 juillet 1985, les parents s'étaient comportés de manière très raisonnable. Ils avaient regardé leurs fils assassinés du bon côté, c'est-à-dire le droit, le moins abîmé. Hélas, donne un doigt au diable, il voudra toute la main. Christiane le disait toujours, reste sagement dans ton coin, fais mine de ne rien savoir. Bref, il avait dû intervenir personnellement et discuter avec les parents des jeunes gens. Comme si cela ne suffisait pas, un abruti de soldats avait cité son nom en leur annonçant distinctement que le lieutenant Schlangenberger allait venir leur parler. L'entretien n'avait pas suffi. Peu après, les Aedl avaient commencé à envoyer des lettres à droite et à gauche, tentant d'agir par eux-mêmes, au point qu'il avait dû les convoquer pour une nouvelle entrevue, histoire de les effrayer. Seidel reçut quelques coups dans un coin sombre, on lui fit comprendre qu'une chose terrible pourrait advenir à son épouse. En définitive, ils laissèrent tomber pour de bon. Quelques années plus tard, les premières fissures étaient apparues sur le rideau de fer et finalement, en 1989, le consul de RDA à Sofia avait évoqué des tirs intentionnels causant la mort de jeunes gens innocents. Ce qui redonna des ailes aux Aedl. Ils engagèrent aussitôt un avocat en Allemagne et un second en Bulgarie. S'appuyant sur l'article 115 du Code pénal bulgare, ils déposèrent une plainte pour meurtre qui leur donna accès à tous les comptes rendus. Comment s'y étaient-ils pris? Ça, Christiane ne le comprenait toujours pas. Les Aedl n'avaient retenu que la tête et la nuque présentaient des lésions sans aucun lien avec les coups mortels. Étaient-ce les traces d'une chute, d'une bagarre? Voulant apprendre à tout prix comment était mort leur fils, les Aedl avaient fini par obtenir la réouverture du dossier et intenter une action en justice contre le capitaine Volyokov. Ce dernier ne l'avait pas supporté. Il s'était suicidé. Il en savait trop sur bon nombre de gens influents. Schlangenberger suivait fébrilement cette affaire. Il connaissait très bien Volyokov, mais comment aurait-il pu intervenir? Ses anciens alliés faisaient marche arrière. Leurs opinions politiques avaient changé. Certains appartenaient maintenant à un autre parti, d'autres se tenaient tranquilles comme lui. C'était des temps difficiles, le temps des Aedl et autres désespérés, le temps des épreuves pour les faibles comme Volyokov ou les forts comme Schlangenberger, le début des années 90. Heureusement pour Christiane et les autres, les procureurs berlinois avaient expliqué aux Aedl que seul le tribunal bulgare était compétent pour rejuger l'affaire et que leur unique recours désormais était d'intenter un procès en Bulgarie. Mais il venait précisément de le faire. Volyokov s'était suicidé. Qui accusait maintenant? Leur dossier était vide. La procédure fut gelée à la fin de 1994. La mère des garçons décéda peu de temps après. Seidel laissa tomber l'affaire définitivement.
Voilà une histoire complexe. Donc vous l'avez compris, ce Schlangenberger, il veut devenir chancelier, et donc il doit être blanchi. Et il demande donc à un troisième personnage, qui est un personnage très, très important, un personnage clé parce qu'il joue un double jeu, d'enlever toutes ces archives-là, voilà, de cette fameuse office de Gauk, Gaukbehörde, là où il y avait en fait les archives de la Stasi à cette époque-là. Donc ce Frank, il va les enlever petit à petit, mais il va aussi collaborer avec Seidel, qui a ses propres archives. Et en fait, Frank, c'est un malin parce qu'il va essayer en fait de les vendre à Seidel, donc de voilà, d'en profiter, quoi, de gagner de l'argent avec ce trafic. Ich habe jetzt Frank Derbach eingeführt als die bisschen Schlüsselperson zwischen den beiden, der eben dieses doppelte Spiel, Doppelleben führt, genau. Wenn Sie was dazu sagen, wie der sich entwickelt hat, diese Figur dazwischen. War das so, dass sich erstmal die beiden Antagonisten entwickelt haben und dann alle Figuren dazwischen, oder wie entsteht sowas? Sie haben so unglaublich viele Figuren in diesem Roman, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie entsteht so ein Netz? En fait, il y a tellement, la question que je voulais poser aussi, c'est que comment naît un tel roman, en fait? Il y a un tel nombre, un très grand nombre de personnages. C'est vraiment comme un fil, en fait, comme un filet qui se tisse au fur et à mesure. Est-ce que d'abord il y avait les antagonistes, et après il y avait tous ces personnages qui sont entre les deux, les collaborateurs, dont on pense qu'ils sont les collaborateurs, mais finalement ils ne le sont pas. Comment construire un tel roman?
Ich wollte vor allem ein Krimi schreiben, was kein Thriller, ja, also ein Krimi schreiben, eine Spionage, weil letztendlich, wenn Sie das Buch lesen, werden Sie merken, es ist jetzt mehr ein Spionage-Roman als vielleicht ein Krimi. Mhm. Und mir war es wichtig, ein anderes Buch zu schreiben. Wissen Sie, mir war es schon immer wichtig, als Leser und als Schriftsteller, nicht ein Buch zu lesen und nicht ein Buch zu schreiben, wo es einen Mörder gibt, wo es eine Jagd gibt, einen Höhepunkt gibt und alles vorhersehbar ist, wo es einfach nur um Mord und Totschlag und um Gewalt geht. Ich wollte was anderes schreiben. Ich habe mich gewagt, einen Roman in einen Spionageroman reinzubringen, hoffe ich, denke ich. So war mein Vorhaben.
Alors, moi je tiens à préciser qu'il s'agit d'un polar, d'un roman d'espionnage et pas d'un thriller. Moi, en tant qu'électrice et en tant qu'écrivaine aussi, je voulais surtout pas écrire ou lire en fait une histoire de thriller typique avec un meurtre et puis il y a une enquête et on sait très bien ce qui va se passer, on l'a compris tout de suite. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de mettre un roman à l'intérieur d'un roman d'espionnage. Ça se m'est expliqué.
So, ich komme darauf zurück. Drei Sachen sind dann, also es waren drei Sachen, die mir wichtig waren. Eine Geschichte zu erzählen, die es tatsächlich gab. Zu erklären, dass es Menschen geben kann, oder zu zeigen anhand von den Protagonisten, die, obwohl sie aus einem anderen Land kommen, in dem neuen Land sehr wohl Wurzel fassen können. Und die dritte Sache war einfach für mich, einen Spionageroman zu schreiben.
Alors, trois choses étaient importantes pour moi. D'abord, je voulais raconter une histoire basée sur des faits réels. Puis, je voulais montrer à travers ces personnages qu'il y a des gens qui viennent d'un pays, d'un autre système, mais qui peuvent très bien s'enraciner dans un autre. Et troisièmement, je voulais tout simplement écrire un bon roman d'espionnage.
Und jetzt antworte ich Ihre Frage.
Et maintenant, je vais répondre à votre question.
Um sowas zu erreichen, da können es nicht nur drei Protagonisten sein.
Et pour y parvenir, il en faut bien plus que trois protagonistes. Donc parlons de ce Franck qui mène donc ce double jeu. Le livre commence avec une scène assez atroce parce que ce Franck, il va se faire assassiner. On est en 2011 à Berlin dans un immeuble qui est squatté par des Roms dans un quartier de Berlin qui s'appelle Neukölln, et je vous propose de découvrir cette scène. D'abord, Magdalena peut-être dire un extrait en allemand, comme ça vous entendez la langue et aussi la voix de l'auteur, et après voilà, on va écouter cet extrait qui est plus court que les autres en français.
Ich sagte, dass wir jetzt über Frank sprechen, und ich habe erzählt, dass das Buch mit seinem etwas grausamen Tod beginnt. Und ich schlage vor, dass Sie auf Deutsch lesen und danach nochmal die gleiche Stelle, die kürzer ist als die anderen, auf Französisch. Okay.
Jede Leiche ist anders, und Kowalski hatte wahrhaftig schon etliche gesehen. Opfer von Sexualdelikten, Opfer von Entführungen, Opfer bestialischer Morde und Opfer ordinärer Schlägereien, Opfer von Verkehrsunfällen. Die größte Zahl machten Verbrechen aus, die man als gewöhnlich bezeichnen könnte, und diese Fälle waren die Ursache seiner Erschöpfung. Seines Widerwillens stießen sie ihn doch immer wieder auf die Frage, was ihn das alles eigentlich anging, was er damit zu schaffen hatte. Eine Tendenz, die der Polizeipsychiater mit Sorge betrachtete. Im Übrigen verschrieb er Kowalski auch seit längerem schon ein Antidepressivum. Die meisten Verbrechen waren also Taten, die einen durchtrainierten Bildleser kaum hätten erschüttern können. Doch immer wieder gab es auch andere. Seinerzeit hatte Kowalski einen Fall gehabt, der den Medien auf Jahre hin als grausigster Mord im Nachkriegsdeutschland galt. Dutzende Gegenstände hatte der Täter seinem Opfer in den Leib gebohrt, und laut Gutachten des Rechtsmediziners war der Tod erst angetreten, als das letzte Objekt zum Einsatz gekommen war, ein Pfahl, den der Täter ins Herz getrieben hatte. Trotz des ungeheuren Drucks von Seiten der Polizeidirektion und trotz der gewaltigen Mittel, die zur Verfügung gestellt worden waren, hatten sie keinen Erfolg errungen. Und nicht nur der Mörder hatten sie nicht fassen können, auch die Identität des Opfers musste ein Rätsel bleiben. Schließlich wurden die Ermittlungen eingestellt. In einer Atmosphäre des Skandals, die bei den Beamten der SOKO, unter ihnen Kowalski, tiefe Frustration auslöste. Bei keiner anderen Ermittlung waren sie derart im Dunkeln getappt wie bei dieser. Bis heute sah Kowalski die Schlagzeile vor sich: Die Pfähler läuft noch immer frei herum. Nicht die, sondern der. Und dass die ihm ausgerechnet jetzt wieder in den Sinn kam, sollte wohl kein Zufall sein. Das Bad erwies sich als erstaunlich groß. Früher musste hier der Raum gewesen sein, in dem die Dienstmädchen die Wäsche gemacht hatten. In der Ecke standen eine verrostete Mangel, eine Waschmaschine und eine Menge Schüsseln, teils aus Plastik, teils aus Metall. Von Wand zu Wand spannte sich ein ganzes Netz aus Wäscheleien. Ein schmales Fenster, ein mit Gas betriebener Boiler. Eine leere Ecke, wo die Wanne fehlte. Eine Toilette. Auf dieser Toilette saß etwas, was einer menschlichen Gestalt ähnlich war. Kowalski musterte die Szenerie und ließ sich von Flato eine Plastiktüte geben, die dieser mit zitternden Händen reichte, wobei er angestrengt auf den Boden starrte. Kowalski verstand, dass Flato bisher nicht im Bad gewesen war. Er hatte draußen im Flur gestanden, in sicherer Entfernung, und Kowalski konnte ihn durchaus verstehen.
Il existe plusieurs sortes de cadavres. Kowalski en avait déjà vu des centaines au cours de sa carrière. Des victimes de crimes sexuels, d'enlèvements, de meurtres sauvages ou de simples bagarres et d'accidents. Les affaires ordinaires étaient de loin majoritaires et avaient fini par lasser le commissaire. Il ne cessait de s'interroger. Qu'est-ce que tout cela lui apportait finalement ? Le psy de la police constatait l'état du commissaire avec une inquiétude croissante et lui prescrivait de puissants antidépresseurs. Ainsi donc dominaient des crimes qui laisseraient de marbre même les lecteurs de Bild. Mais il s'en produisait d'autres aussi. Le commissaire avait participé en son temps à une enquête sur un assassinat décrit par les médias comme étant l'apogée de la barbarie dans l'Allemagne d'après-guerre. Le caractère exceptionnel de ce meurtre tenait au fait que son auteur avait planté près de 300 objets dans le corps de la victime, en commençant par les pieds. Comme l'avaient démontré les rapports des légistes, le coup fatal avait été porté avec une planche contondante, directement au cœur. Malgré tous les moyens déployés, la pression des médias et celle de la hiérarchie, non seulement on n'avait jamais réussi à établir qui était l'assassin, mais la victime non plus n'avait pas pu être identifiée. L'enquête avait fini par être abandonnée dans une atmosphère de scandale, laissant les investigateurs, parmi lesquels Kowalski, en proie à la frustration. Aujourd'hui encore, les manchettes des journaux restaient gravées dans la tête du commissaire. Le tueur à la planche est parmi nous. Ce souvenir n'était pas revenu par hasard à l'esprit de Kowalski. La salle de bain était étonnamment grande. Sans doute avait-elle servi un jour de buanderie. Dans un angle se trouvaient une calandre rouillée, une machine à laver et de nombreuses bassines. Sous l'eau, au plafond étaient fixés plusieurs fils à sécher le linge. Une fenêtre étroite, un chauffe-eau à gaz, l'endroit laissé vide pour la baignoire, le siège des toilettes. Et sur la cuvette des toilettes, une forme à l'apparence humaine. Le commissaire l'observa durant de longues minutes. Sans un mot, il prit des mains tremblantes de Flatow le sac en plastique que celui-ci lui tendait, le regard rivé au sol. Kowalski comprit que Flatow n'avait pas franchi le seuil de la salle de bain depuis son arrivée. Il contemplait la scène depuis le couloir, à une prudente distance de sécurité. Pour une fois, Kowalski le comprenait. Le corps nu avait un teint d'albâtre et, sans la forte pilosité noire de sa poitrine, on aurait pu être tenté de le comparer à un personnage de Resident Evil. Kowalski jouait frénétiquement à ce jeu vidéo avec son voisin, un peintre, dans son appartement humide au troisième étage d'un immeuble vétuste de la Bornstrasse. Mais là, il ne s'agissait nullement d'un jeu. Il ne se trouvait pas chez lui devant sa télé, mais bien sur une scène de crime. L'un des techniciens s'écarta pour le laisser entrer. Kowalski s'avança doucement, très doucement. Les orbites de la victime étaient totalement vides. On avait ôté ses yeux et nettoyé l'ensemble avec une méticulosité presque chirurgicale. On aurait dit que la peau entre le nez et la bouche avait été étirée de manière artificielle, qu'elle était sur le point d'éclater. Ses lèvres étaient tordues, déformées. Quelqu'un lui avait tiré la langue par le larynx. Anormalement longue, elle sortait à présent de la gorge tranchée, à l'endroit habituellement réservé à un nœud de cravate. Cette chose avait été un homme récemment encore.
Voilà, le début du roman. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un certain plaisir à décrire une telle scène? C'est da irgendwie so ein komisches Vergnügen, so eine Szene zu beschreiben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das war überhaupt nicht jetzt. Also, es war kein Vergnügen für mich. Ich spiele auch solche Spiele nicht. Ich habe zwar drei Kinder, ich weiß, was da gespielt wird, also weil da diese verschiedenen Vergleiche zu den Spielen stattfinden.
Sind das Videospiele?
Das Videospiel, genau. Und ab und zu mischen sich auch meine Jungs ein und meine Mama, du musst das jetzt mit diesem zweiten Teil vergleichen. Diese Leiche, die muss so und so aussehen. Also es sind so verrückte Geschichten, wenn sich die Kinder dann halt einmischen und diese ganzen Netflix-Serien auch Netflix-Serien dazu kommen. Und auch wenn man schon eine reife Schriftstellerin ist von den Jahren, ist man doch nicht unbeeinflusst, wenn man 18-jährige Söhne hat, ne? Oder 14-jährige Töchter. Aber jetzt unabhängig davon, es ist ein Krimi-Roman. Es ist, ich kann da jetzt nicht nur Freude Eierkuchen beschreiben, ja? Es muss ein schlimmer Mord passieren, damit man wirklich alle Reservoirs, alle Kräfte und alles Mögliche tut, damit man jetzt denjenigen findet, der das getan hat. Ne? Und der Grund muss schon, vielleicht so sein, damit man sich dann als Polizeipräsident von Berlin engagiert, um das zu verfolgen. Ja. Und ich finde auch die Frage immer, in einem Krimi-Roman, warum beschreiben Sie die Leiche so schlimm und so weiter, ein bisschen, wie soll ich sagen, was soll ich darauf antworten? Im zweiten Teil sehen die Leichen noch schlimmer.
Aus.
Ja.
Alors non, c'était pas vraiment un plaisir pour moi. D'ailleurs, je ne joue pas à ce jeu en fait. Le cadavre est comparé à un jeu vidéo que jouent mes fils, d'ailleurs, qui ont 18 ans. Et parfois, ils interviennent en fait quand j'écris. Ils disent non, mais en fait, ton mort là, en fait, ton cadavre, il devrait plus ressembler à tel ou tel cadavre d'une série Netflix. Et même si je suis aujourd'hui une écrivaine mûre, je me laisse quand même influencer par ce genre de commentaires de la part de mes fils qui ont 18 ans. Mais pour répondre à votre question, je ne sais pas quoi vous dire en fait. C'est quand même un polar et donc évidemment il faut un crime absolument atroce pour trouver en fait un policier qui a envie de trouver l'assassin. C'est comme ça que ça fonctionne.
Und was noch wichtig ist zu erwähnen, wenn man solche Szenen beschreibt, solche Leichen beschreibt, jetzt ob das jetzt dieser Roman ist oder andere Romane von mir oder auch von jetzt gerade von mir, das hat natürlich einen Grund, weil ich kann Ihnen jetzt nicht verraten, warum die Leiche so massakriert wird. Wenn ich Ihnen jetzt erklären würde, warum auf diese Art und Weise, würde ich auch erklären, somit wer der Täter war. Und diese Geheimnisse würde ich Ihnen gerne, Überraschungen vielleicht, wenn Sie das Buch lesen, als Dessert beim Lesen, ja.
Et évidemment, en fait, dans tous mes livres, lorsqu'il y a un cadavre, et dans celui-là aussi, il y a une raison, en fait. Là, c'est atroce ce qui lui est arrivé à ce Franck. Il y a bien des raisons, mais que je ne vais pas vous dévoiler ce soir, parce que en le faisant, vous comprendrez tout de suite qui est l'assassin. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Justement, j'ai envie de vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, tout d'abord, je vous remercie de cette présentation. Je voudrais poser deux questions. Si j'ai bien compris, ce livre est le premier d'une trilogie. Donc, non, j'ai peut-être mal compris.
Oui, c'est ça, c'est si ça, vous avez bien compris.
Ce serait le premier d'une trilogie. Et vous avez dit que dans les deux autres, les deux prochains, vous évoqueriez d'autres sujets germano-polonais difficiles. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelques-uns, citer quels sont ces sujets germano-polonais difficiles ? Ça, c'est la première question.
Je vais d'abord lire cela. kommt nochmal auf diese Trilogie-Geschichte zurück. Sie haben gesagt, dass der erste Band einer Trilogie ist und dass in den anderen beiden auch wieder schwierige deutsch-polnische Themen behandelt werden. Können Sie ein bisschen mehr dazu sagen, um was es für Themen geht?
Ich habe vor, ich glaube jetzt 28 Stunden oder 24, 26 Stunden den zweiten Teil beendet. Ja, soll ich weiter?
Ja.
Ja, okay. Also, ich bin am Ende. Es sollte nicht so dick sein, es ist wieder so dick geworden. Der Titel des zweiten Teils ist Schattenarmee.
Schattenarmee.
Es ist wieder ein Thema oder es ist wieder etwas, was wirklich tatsächlich in Deutschland stattgefunden hat. Und wenn ich Ihnen sagen würde, was das ist, würde niemand von Ihnen glauben, dass es überhaupt möglich ist. Dass man, und ich sage jetzt kurz, ach, das sage ich, mein Verleger ist nicht da, in den 40er Jahren hat ein ehemaliger SS-Obersturmbannführer eine Armee gegründet in Deutschland. Das hat zwei Jahre gedauert, bis er 40.000 Männer, ehemalige Soldaten gesammelt hat, die in der Lage waren, wieder Krieg zu führen. Das war das Jahr 46. Und das ist alles in Deutschland, was hungert, wo Also ich lasse sie jetzt das übersetzen. Mm-hmm. Ja, weil...
en fait, je viens de terminer le deuxième volet de ma trilogie. Il y a 26 heures précisément. En fait. J'ai terminé le livre et je me suis dit, c'est encore un pavé comme ça. Je voulais que ce soit plus court, mais non. Le titre de ce roman, c'est « L'armée des ombres ». Et c'est encore un fait historique allemand. Et vous n'allez pas me croire, en fait, de quoi il s'agit. En fait, je vais vous le dire parce que mon éditeur n'est pas là. Il s'agit d'un ancien général SS qui, dans les années 40, plus précisément en 46-47, a fondé une nouvelle armée allemande. Et lui a fallu que 2 ans pour rassembler 40 000 anciens soldats qui étaient prêts à se relancer dans une guerre. Et tout ça... Donc en 47, dans une Allemagne où les gens souffraient de la faim.
Dazu muss ich sagen, hat jetzt diese Armee, diesejenige, ich will jetzt wirklich nicht die Namen nennen, nicht gegründet, gebildet, ausgestattet, um Frankreich, Polen oder wieder Europa anzugreifen. Hat diese Armee gegründet und finanziert, um sich vor den Kommunisten aus dem Osten zu schützen, im Falle des Angriffs. Falls die Sowjets sich ausbreiten. Aber sie waren bereit zu kämpfen.
Pour vous donner plus de détails, en fait, cette armée, il ne l'avait pas fondée dans le but d'attaquer à nouveau la France, la Pologne ou l'Europe, mais il l'a fait dans le but de se protéger contre les communistes, au cas où les soviétiques allaient se rependre encore plus. Mais, encore une fois, ces hommes-là étaient tout à fait prêts à refaire la guerre.
Und damit Sie nicht denken, dass ich mir das jetzt aus dem Finger gesaugt habe und einfach hier irgendetwas erzähle. Ich habe das einfach vor 3 oder 4 Jahren zufälligerweise beim Spiegel, ich mache einfach Spiegel auf, ich mache ihn schon gar nicht auf. Ich habe schon Angst, was ich da finde. Ich mache ihn auf, ich sehe was, Schattenarmee, was, 40.000 Soldaten, nee, bitte zumachen. Nochmal, und es hat sich herausgestellt, dass in den Archiven von Gehlen, also in den Bundesnachrichtenarchiven, also jetzt Nachrichtendienstlichen, also jetzt Archiven, jemand ganz zufällig eine Aktentasche gefunden hat, wo drauf stand Versicherung. Und sie haben aufgeräumt in den Archiven. Und derjenige hat diese Akten aufgemacht, hat die gelesen und musste erstmal wahrscheinlich reanimiert werden, was er da gelesen hat, ja. Und das hat Spiegel veröffentlicht, sehr genau. Ich habe dann natürlich weiter recherchiert, fand das faszinierend und ich hatte einen fertigen Roman. Praktisch, fast.
Alors, vraiment, je n'invente rien, là. C'est encore une fois en lisant le Spiegel. Normalement, je lis plus le Spiegel parce que je sais ce qui va se passer après. Mais bon, j'ouvre le Spiegel et je tombe donc sur cette fameuse armée des ombres. 40 000 soldats, je referme, je me dis non, je ne vais pas y aller. Et puis, j'ouvre et voilà. Je découvre que dans les archives du service secret allemand, Bundesnachrichtendienst, en fait, il y a quelqu'un qui a trouvé une sacoche contenant des archives sur lesquelles était écrit assurance, Versicherung. Das habe ich nicht verstanden.
Versicherung. Damit, das war ein Deckname. Okay. In diesen Archiven war einfach waren Akten und man hat immer den Akten natürlich nicht die Namen gegeben, zum Beispiel Schattenarmee, ja, sondern ja. Versicherung.
Und d'accord. Et donc, en fait, évidemment, on a essayé de cacher les informations sur la Schattenarmee. Donc, il y avait juste, de manière un peu lapidaire, marqué assurance. Et voilà, quelqu'un l'a trouvé, ouvre ses archives et a failli, je pense, on est tombé dans les pommes. Et le Spiegel a publié un article. Et voilà, moi, j'en ai fait un roman qui vient d'être, que je viens de terminer.
Je peux poser ma deuxième question.
Allez-y.
Ma deuxième question. Au début des années 2000, j'étais allé à Berlin et j'avais vu dans des brochures touristiques des circuits dans les territoires allemands, les anciens territoires allemands d'avant la Deuxième Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale, en Pologne jusqu'à Königsberg ou les pays baltes. C'était des circuits qui étaient présentés de façon nostalgique, pas revanchard, gentiment nostalgique, de gens qui, bon, pour des gens qui voulaient revoir des territoires qui avaient été allemands. Et un peu après, j'avais lu plusieurs articles dans la presse en France qui évoquaient des Allemands qui avaient probablement été donc chassés de ces territoires après la Deuxième Guerre mondiale, qui revenaient vers la Pologne en particulier, cherchant soit acheter des terres ou acheter des maisons, peut-être leur maison ou pas leur maison, leur terre ou pas leur terre, je n'en sais rien. Est-ce que ce phénomène, vous en avez entendu parler en Pologne, et est-ce qu'il s'est prolongé, poursuivi, ou c'est quelque chose qui a été qui a fait long feu, en d'autres termes, comment les autorités polonaises, à votre connaissance, ont pu percevoir tout ça?
Also der hat Anfang der 2000er Jahre hat er in Berlin gesehen, dass es da so Touristenführungen gab, in den ehemals deutschen Gebieten vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Königsberg, im Baltikum, in Polen. Und er sagt, das war so für so eine Tour für Nostalgiker. Ja? Die wollten das einfach nochmal alles sehen. Und dann hat er in der französischen Presse gelesen, dass die Deutschen, die aus diesen Gebieten verjagt wurden, dann zurückkamen nach Polen, um Recherchen zu machen oder Häuser zu kaufen. Will wissen, ob das bekannt ist, diese Geschichte in Polen, und wie die polnische Regierung darauf reagiert.
Dass die Deutschen wieder
Häuser kaufen.
Dass die Deutschen wieder Häuser kaufen dort. Wissen Sie, heute, glaube ich, kaufen mehr Polen an der polnischen Grenze auf dem deutschen Terrain Häuser als die Deutschen in Polen. Es sorgt für keine Empörung, weil, auch wenn das jetzt keine Verständigung ist, oder auch wenn diese Aufarbeitung der Geschichte zwischen den Deutschen und Polen nicht so stattfindet wie zwischen den Franzosen und den Deutschen, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet. Ja? Wir haben einfach nur 30 Jahre nach dem Mauerfall und sie haben 70 Jahre. Ja? Und das ist einfach, das ist der Unterschied. Sie haben 40 Jahre mehr Zeit gehabt, das aufzuarbeiten. Und das ist nicht ohne. Das ist fast so viel, wie ich alt bin. Und was ich damit sagen will, da passiert was. Die Polen regen sich überhaupt nicht auf, wenn die Deutschen ihre alten Häuser besuchen oder wenn sie dort etwas kaufen, weil diese Menschen haben dort gewohnt. Ich erzähle nur eine ganz kurze Geschichte.
Pour répondre à votre question, les Polonais, je pense qu'il y a bien plus de Polonais qui achètent aujourd'hui des maisons sur des terrains allemands que l'inverse, en fait, des Allemands qui achètent ou visitent des maisons en Pologne. Encore une fois, je dois rappeler qu'il n'y a pas eu cette réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne. On ne peut pas le comparer avec l'histoire entre la France et l'Allemagne. Mais c'est normal, parce que nous, en fait, pour nous réconcilier, on n'a que 30 ans depuis la chute du mur. Vous en avez 40 de plus. Ça fait 70 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Donc, évidemment, ça fait une énorme différence.
Und ich bin in Danzig geboren. Das ist eine, auch wenn das eine hanseatische Stadt ist, oder jahrelang gewesen war, hunderte von Jahren so gewesen ist, wie Amsterdam oder wie Bremen, ist das doch eine sehr stark deutsch geprägte Stadt gewesen. Aber ich bin in Gdańsk geboren und meine Oma ist in Gdańsk geboren und alle meine Omas, mein Vater, meine Mutter, wir stammen alle aus Danzig, obwohl wir Polen sind. Aber wir waren eine Minderheit. Und wenn in das Haus, wo meine Oma wohnt, noch vor kurzem Deutsche kamen, um zu gucken, um anzufassen, wo sie früher gewohnt haben, wo sie noch lebten, hat meine Oma die Tür aufgemacht und meinte, kommt doch rein. Das verstehe ich doch. Das sind eure Häuser gewesen. Ihr habt da gelebt. Damit hatte kaum jemand in Polen ein Problem. Und ich erkläre Ihnen, warum. Die Polen wurden auch vertrieben.
Voilà. En fait, moi je suis née à Gdansk. C'est une ville de la Hanse, telle que Amsterdam, telle que Brême. Mais en fait, il y avait vraiment une très forte influence allemande à Gdansk. Moi, je suis née à Gdansk, ma grand-mère aussi. Je peux vous dire que lorsque il y a des Allemands qui viennent ou qui venaient il y a peu de temps encore visiter la maison qu'habite ma grand-mère aujourd'hui, qui voulait voir en fait ce qui est devenu cette maison, ma grand-mère leur a ouvert grande la porte parce qu'elle comprenait.
Ich will jetzt keinen Exkurs in die Volksgeschichte hier machen, darum geht es ja gar nicht. Aber damit Sie das besser verstehen, die Leute, die in Gdańsk, also in Danzig, Breslau und in diesen ganzen Ostgebieten, Pommern, also in diese deutschen Städte gezogen sind, die Polen, die kamen ja nicht aus Polen. Aus irgendeinem Polen, was Polen war. Sie kamen aus der ehemaligen Ukraine. Diese Polen wurden vertrieben und sie mussten irgendwo hin. Es hat eine sozusagen Verschiebung stattgefunden. Und diese Leute haben verstanden, was es heißt, ein Haus zu verlieren. Deswegen, wenn andere kamen und ihre Häuser sehen wollten, haben sie ihnen die Türen geöffnet.
Mhm. Donc juste pour, je vais pas vous donner un cours d'histoire, hein, c'est pas mon propos, mais faites tous ces régions, Gdansk, la Poméranie, en fait, toutes ces villes allemandes dans lesquelles venaient les Polonais, il faut savoir que les Polonais, ils ne venaient pas de Pologne, mais ils venaient de l'ancienne Ukraine, ils étaient eux-mêmes chassés, et donc ils ont eux-mêmes, en fait, fait ce chemin-là, et donc du coup, ils comprennent très très bien ce qui se passe.
Und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Frage, weil, wissen Sie, ich habe eigentlich darüber mein erstes Buch geschrieben. Obwohl der Tunnel über Berlin ist und über Geschichte und so weiter, die deutsche Geschichte ist Vertreibung. Und die polnische Geschichte ist auch Vertreibung. Das ist eine Geschichte über den Krieg. Und in meinem ersten Roman, was auch auf Französisch erschienen ist, ist ganz viel davon, was Sie jetzt gerade fragen.
Je remercie beaucoup en fait d'avoir posé cette question parce que dans mon premier livre qui s'appelle en allemand Le tunnel et en français 188 mètres sous Berlin, en fait il en est question. C'est une histoire allemande, une histoire polonaise parce que tous les deux c'est l'histoire de la guerre, c'est une histoire de comment dire
d'expulsion.
Mmh. Voilà, et donc ça joue un rôle important dans mon premier roman. Il y avait une autre question.
Oui, justement, c'est une très bonne transition. Je voulais justement savoir sur quoi étaient basés vos livres précédents, notamment ce roman. S'il y avait une dimension déjà de polar et d'histoire. Et apparemment, il est mentionné que vous avez aussi écrit des nouvelles. Est-ce que c'est aussi sur des sujets similaires?
Die Frage ist, worum es in dem ersten Roman geht, ob es auch schon Krimi war, ob das auch schon historischer Stoff war. Und die zweite Frage ist, worum es in den Kurzgeschichten geht, in den Novellen.
In dem ersten Roman haben wir eine Geschichte von einem Tunnel, der zwischen West-Berlin und Ost-Berlin gebaut wurde, damit man einfach nicht über die Mauer, die tödlich für die Leute war, sondern über, also unterirdisch in die andere Stadt gelangen kann. Und Entschuldigung. Also,
l'histoire, vous la connaissez, l'histoire. Oui, il y avait un film, exactement, sur le... Voilà, en fait, il y avait un film, Le tunnel, en fait, sur ce tunnel qui a été creusé, en fait, entre Berlin Est et Ouest, permettant à je ne sais plus quand même en fait, à combien de personnes de fuir, en fait, la RDA.
Wie heißt auf Französisch aber?
Mais.
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 Mais. Mais. Mais. Aber in Wirklichkeit, und da sind wir wieder bei Ihnen, war das für mich nur ein Vorwand, über 5 oder 6 verschiedene Menschen zu schreiben, die ihre Geschichte erzählen konnten. Ja.
Mais, en vérité, mais, pour moi, tout ce tunnel, cette histoire du tunnel, n'était qu'un prétexte pour donner la parole à 6 personnages.
Und da, ich habe mich immer gefragt, wie ich so Tunnel, mein Debütroman, zusammenfassen kann. Und da hat mir La Figaro sehr gut geholfen. Sie haben nämlich zusammengefasst, es sind 100 Jahre europäische Geschichte. Also so viel über den ersten Roman. Mm-hmm.
Je me suis toujours posé la question comment résumer ce premier roman, et Le Figaro m'a beaucoup aidée en écrivant qu'il s'agissait de 100 ans d'histoire européenne. Voilà mon premier roman. Vous voulez, was ist zu den Kurzgeschichten noch sagen?
Ach so, die Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten sind nicht nur von mir. Die Kurzgeschichten sind von 5 Autoren aus verschiedenen Ländern, Portugal, Italien, Portugal, Italien, Slowakei und Polen. Und ich kenne nur meine Geschichte. Tut mir leid, weil die anderen sind alle auf Französisch für den Verlag geschrieben. Und ich habe auch zum ersten Mal etwas, ich glaube, ich habe das auf Deutsch geschrieben und das wurde dann ins Französische übersetzt, also für einen französischen Verlag.
Pour dire un mot sur les nouvelles, il y en a 5 écrits par 5 auteurs différents venant du Portugal, de l'Italie, de la Pologne et de la Slovaquie. Voilà. Malheureusement, je ne connais que la mienne. Et en fait, on les a écrits à la demande de la maison d'édition française. Mais c'était la première fois que j'ai écrit en allemand. Et ça a été après traduit en français.
Und ich habe mich zum ersten Mal getraut, über Polen und durch Polen etwas zu schreiben. Und es geht dabei um eine fantastische, sondern eine Fantasiegeschichte, also aus der Zukunft, über die, wie in Polen die katholischen Priester die Macht übernehmen.
C'était la toute première fois que j'ai osé raconter une histoire polonaise, uniquement polonaise, purement polonaise. Et en fait, c'est comme un petit roman d'anticipation, j'imagine, comment les prêtres catholiques polonais vont prendre le pouvoir.
Und der Präsident, Priesterpräsident, fährt nach Frankreich mit seinen Priestergenerälen. Und mit seinen Priesterministern. Ja, so fängt es so an. Ja.
Voilà, au début de l'histoire.
Aber davor hat er eine ganze, sehr hohe Mauer gebaut zwischen Deutschland und Polen, damit es nicht so schön ist, damit es so richtig katholisch und offen ist. Hat er so eine 4 Meter Mauer gebaut, katholische Mauer.
Et ce président ou prêtre, il va se rendre en France avec une délégation de généraux prêtres et des ministres prêtres. Mais avant d'y aller, en fait, il a fait construire un mur de 4 mètres entre la Pologne et l'Allemagne. Voilà.
Und niemand bis heute hat sich in Polen getraut, diese Novelle zu veröffentlichen.
Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, personne n'a osé publier cette nouvelle, cette histoire, en fait, en Pologne. Peut-être une dernière question, parce que je commence à saturer, et vous peut-être aussi.
Ja, ich wollte fragen, mir kommt das so vor, als ob diese Geschichten, was wir gehört haben, dass die kleine Geschichte, die persönliche Geschichte in den Familien, ob die eingefügt wird in die große Geschichte. Hat das Wirkung, zum Beispiel in Schulbüchern in Deutschland oder in Polen, oder für die Geschichte, für die Historiker? Und eine kleine Beifrage, die am Anfang...
Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe die Frage nicht verstanden.
Okay.
Ich habe sie auch nicht so richtig verstanden. Meinen Sie, ob das jetzt, ob die deutschen Schulbücher und die polnischen...
Ja, ob das eine Wirkung hat auf die Geschichtsschreibung. Und,
für mich? Ich kenne
die... Nein, für die Historiker, die Leute, die das lesen. Weil sowas kommt in Geschichtsbüchern, zum Beispiel, das sind Enthüllungen, was ich will mal... Über das Buch, über das Sie gesprochen haben, das sind Enthüllungen und die kommen in der Geschichtsschreibung, glaube ich, nicht vor.
Sie meinen jetzt zum Beispiel Schattenarmee oder...
Ja, genau, ja.
Wissen Sie, dass es...
Ich verstehe die Frage
okay.
noch nicht.
Ach so.
Wie würde Sie die Frage formulieren?
Wie würde ich die Frage formulieren? Ich kann...
Toutes ces révélations, en fait, par exemple, sur l'armée des ombres, est-ce que, c'est des choses qu'on ne sait pas, est-ce que ça a influencé, en fait, la manière dont on raconte l'histoire polonaise?
Ou allemande.
L'histoire. Ouais. La grande histoire, la façon de raconter la grande histoire.
Die Schulbücher brauchen immer ihre Zeit. Und die Sachen, die ich entdecke, sind die, ich habe sie in den, also entdecke, was heißt entdecke? Ich entdecke sie gar nicht. Jeder kann sie entdecken, indem er einfach eine Zeitschrift aufschlägt oder im Internet guckt und ein bisschen sich dafür interessiert. Die sind in den letzten Jahren in den Akten aufgetaucht. Ja? Meistens ist es so, das ist einfach so, dass die Nazis oder die, ja, dass die Nazis ja, sterben müssen, damit wir über sie schreiben können und damit die Akten aufgedeckt werden können. Also die, die damit Probleme bekommen könnten. Ich glaube nicht, dass es Zufall war, dass man einfach die Akten jetzt so veröffentlicht. Die waren bestimmt auch vorher zugänglich. Ja? Das ist jetzt, also ich will jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber bis das dann in die Schulbücher reinkommt, das dauert ja immer Jahre. Es sind Kommissionen, die sich zusammentreffen. Die müssen das alles abdiskutieren. Streitereien gibt es. Sie wissen ja, was zwischen Frankreich und Deutschland war, bis sie sich geeinigt haben, wie sie das unterrichten. Ich meine, ich weiß nicht, was in Frankreich ist und wie in Frankreich der Geschichtsunterricht aussieht. Ich habe in Deutschland immer nur den Zweiten Weltkrieg in der Schule gehabt. Immer nur den Zweiten Weltkrieg. Bis ich als Polin mit meinen 14 und 15 Jahren gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mein Sohn sagte jetzt, er hat Abitur gemacht, er kann nicht mehr. Wenn er den Zweiten Weltkrieg hört und was alles die Nazis gemacht haben, er kann nicht mehr. Es wird ständig über den Zweiten Weltkrieg in Deutschland unterrichtet. Zu meiner Zeit, zu seiner Zeit und jetzt fängt damit meine Tochter an. Ich würde mir wünschen, dass man in Polen über die Verbrechen der Polen, die sie auch ja, auf ihrem Gewissen haben, so viel unterrichtet wird, wie in Deutschland über die Verbrechen der Nazis, auch wenn man das schwer natürlich vergleichen kann. Ja, die Aufarbeitung findet wirklich statt.
Also, ces archives-là, tout le monde peut les découvrir en ouvrant un journal. Mais je pense que ce n'est pas un hasard que ça ne fait que quelques années, en fait, que ces archives soient accessibles, parce que les nazis commencent à mourir, parce que ceux qui sont coupables doivent mourir pour que les archives soient accessibles. Je ne veux pas surinterpréter tout ça, mais évidemment, il faut beaucoup de temps avant que ces informations-là qu'on découvre maintenant rentrent dans les manuels scolaires. Évidemment, c'est quelques années en fait que ça prend. Mais moi, ce que j'ai vécu en Allemagne, c'est qu'en cours d'histoire, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Tellement qu'à 14-15 ans, j'ai craqué, j'ai dit j'en peux plus. Et maintenant, c'est mon fils qui craque. En fait, j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour de cette histoire en Allemagne. Là, ça va, c'est ma fille qui va commencer à apprendre tout ça. Et j'aimerais beaucoup que les Polonais, de leur côté, commencent aussi à faire ce travail-là, en fait, à parler des crimes qui ont été commis par les Polonais en Pologne, même si, évidemment, il ne faut pas comparer tout ça. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup, Magdalena Paris.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Il y a, en fait, comme d'habitude, un petit verre qui vous attend et vous pouvez évidemment continuer à poser des questions.